France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Barthélémy Gaillard et Sacha Mattei, réalisée par Vivian Lecuivre. Et à la technique ce matin, c'est Dalia. C'est le dernier volet de notre série consacrée aux déchets et aux enjeux sanitaires, environnementaux, sociaux, mais aussi très politiques de leur gestion. Nous avons parlé lundi des négociations internationales pour en finir avec la pollution plastique, mardi du commerce mondial des déchets, hier des collecteurs de déchets au Caire ou à New Delhi. Aujourd'hui en Campanie, dans la région de Naples, l'emprise toxique des mafias.
Voilà le matériel nocif, tout mélangé. On les a enterrés en cachette sous les usines. C'est pour ça qu'on meurt à Chera. Elle fait quoi, la protection civile? Elle les enlève? Pendant ce temps, la nuit, la Camorra décharge. Enfin, la Camorra. Peut-être même des politiciens. C'est toujours lié à la politique. L'autorité n'existe pas. Il n'y a pas d'arrestation. Pas de contrôle du territoire. Ils font leur beurre avec nous. Et nous, on meurt. C'est ça, la situation. Et c'est rien par rapport au bidon toxique enterré.
Toutes les semaines, en Campanie, dans le sud de l'Italie, la région de Naples, des incendies se propagent dans des décharges illégales. Des fumées noires jaillissent de manière intermittente, éparpillant leurs résidus de produits toxiques, fixant dans les poussières les dioxines produites par la combustion. Alors les maladies entrent dans le paysage. Elles restent d'abord devant les maisons à se dégourdir au soleil, et puis elles entrent et elles fauchent jusqu'aux plus jeunes. Que ce soit des métaux lourds, des boues industrielles, des citernes de produits dangereux, voire des véhicules entiers, des centaines de tonnes de déchets n'ont jamais franchi les grilles d'une décharge officielle et encore moins d'un centre de traitement. Ce fut d'abord la mafia locale, la Camorra, qui prit le contrôle de toute la chaîne dans les années 70 au service d'entrepreneurs qui ne voulaient pas payer le prix fort sur le marché légal pour se débarrasser de leur gravats. Aujourd'hui, la mafia est moins présente dans ce secteur, mais les habitudes sont tenaces et d'autres acteurs en profitent. En janvier dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Italie pour son inaction en la matière, car le trafic prospère sur l'absence de contrôle et la faiblesse des infrastructures. Mais le problème n'est pas que napolitain, il n'est pas qu'italien, c'est un trafic mondial. Les déchets viennent d'ailleurs aussi d'Allemagne, d'Autriche, de Slovénie et parfois même des pays du Sud. Nous en parlons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Clotilde Champerrache.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste au CNAM, spécialiste des organisations criminelles. Votre livre Géopolitique des mafias, entre expansion économique et conquête territorial, apparu aux éditions Le Cavalier Bleu et a été publié l'année dernière en livre de poche. Bonjour Fabrizio Macaglia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également dans ce studio. Vous êtes géographe, enseignant-chercheur à l'Université Paris 8, membre du LADIS pour Laboratoire Dynamique Sociale et Recomposition des Espaces. Fabrizio Macaglia, qu'est-ce que ça sent, des années et des années de décharges sauvages? Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des endroits en Campanie où l'odeur est forte? Et si elle l'est, est-ce que c'est de façon persistante ou c'est par relent?
Alors, un déchet, ça, bon, les déchets sentent, ça sent la putréfaction, ça produit une odeur âcre, et puis ça sent le brûlé lorsqu'on les incinère à ciel ouvert. Aujourd'hui, il arrive effectivement que on abandonne, suite à l'abandon de déchets dans des terrains vagues, où on a encore cette odeur âcre qui persiste surtout l'été quand il fait chaud, mais ce qui persiste surtout aujourd'hui, c'est l'odeur âcre de la combustion des déchets. Lorsqu'on les incendie encore, ça arrive dans l'arrière-pays napolitain.
C'est la famosissima curva della merda.
Voilà le fameux virage de la merde.
Scaricate stanotte. Azzi, si hanno scaricate.
Ils ont déchargé cette nuit.
Incredibile.
Incroyable.
Strana. Una puzza strana stamattina.
Drôle de puanteur ce matin.
Hanno spruzzato i deodoranti.
Ils ont pulvérisé des désodorisants.
Sta cosa mi fa morire.
C'est fou.
Ninna nanna nanna ninna, i rifiuti tossici dormono tranquilli dentro la discarica sequestrata anni fa.
Dodo, l'enfant d'eau, les déchets toxiques dorment tranquillement dans la décharge sous scellé depuis des années. Dodo, l'enfant d'eau, un autre berceau de déchets, c'est magnifique, chante ce monsieur qui est éducateur environnemental. C'est une scène du documentaire Beautiful Country avec l'accent de Naples, puisque c'est comme ça que ça s'écrit, d'Esmeralda Calabria, Andrea D'Ambrosio, Pepe Ruggiero. C'est un documentaire qui est sorti en salle en 2008. De quels déchets parle-t-on, Clotilde Champerrache? Est-ce que seul un odorat averti comme celui de ce monsieur finit par distinguer les différentes natures de déchets selon leur odeur, a fortiori quand un feu se déclare?
Alors, tous les déchets sentent, comme on l'a dit. Parfois, c'est pas tellement l'odeur en plus qui est particulière, c'est la dangerosité des produits qui sont incinérés ou jetés dans des décharges illégales. Et on a une vraie problématique. Alors, l'odeur, on la sent, les incendies, on les voit, mais il y a aussi tout ce qui est souterrain, c'est-à-dire que en se décomposant, certaines matières, y compris des matières toxiques, parce qu'on n'est pas que sur du déchet ménager, on est aussi sur du déchet industriel.
Il y a les deux.
Oui,
vraiment
tout
les
à
ordures
fait.
Ménagères.
Et en se décomposant, il y a des liquides de percolation qui se dégagent et qui, dans des décharges illégales, ne sont pas récoltées. Donc, elles vont dans la terre et la Campanie est quand même une région agricole. Donc, une véritable problématique de long terme de pollution.
Une région agricole et des terres qui jadis furent fertiles et qu'on appelle aujourd'hui terre des feux. Elles ont davantage le goût des cendres et des produits toxiques. Quand feu il y a, est-ce que ce sont des incendies accidentels parce que l'accumulation de produits toxiques fabrique des gaz et qu'il y a aussi des bonbonnes de gaz qui se trouvent là qui ne devraient rien y faire, ou ce sont toujours des accidents volontaires criminels pour faire de la place, Fabrizio Moccaglia?
Il y a les deux causes, c'est-à-dire que l'accumulation sauvage de déchets à l'air libre est propice au déclenchement d'incendies, puisque l'accumulation des déchets avec les effets d'ensoleillement, etc., ça peut déclencher un incendie. Mais au-delà de ça, il y a une volonté également de la part des acteurs du trafic d'éliminer à la fois l'accumulation des déchets, d'accumuler des traces éventuellement, pour remonter aux producteurs de déchets. Et donc, le plus souvent, ce sont des incendies volontaires pour masquer le trafic et faire de la place également, pour ensuite déverser de nouveau.
Clotilde Champerrache.
Effectivement, ces incendies sont généralement volontaires, mais il y a aussi des cas de combustion spontanée avec justement des produits chimiques toxiques. Et d'ailleurs, ça avait attiré l'attention des forces de l'ordre dès 1991, parce qu'on avait un transporteur, Mario Tamburino, qui avait transporté, sans le savoir, des déchets qui étaient beaucoup plus toxiques qu'annoncés, donc sans les préoccupations nécessaires pour avoir des fûts aux normes. Et il avait été brûlé chimiquement, sans flamme, et il avait perdu la vue.
Il était devenu aveugle. C'est cette médiatisation de ce témoignage notamment qui a aidé à prendre la mesure de l'ampleur du problème. Il y a eu d'autres facteurs, on va y venir, mais pour bien comprendre comment le trafic illégal de déchets peut advenir, à quelles occasions et surtout à qui il profite, il faut déjà comprendre comment une terre agricole ou une forêt ou une propriété privée deviennent des décharges illégales. Et là, les irrégularités, est-ce qu'elles sont à tous les niveaux de la chaîne, Clotilde Champerrache, où ce sont d'abord les entreprises, par exemple, qui fabriquent des déchets, qui veulent se soustraire à tous les coûts que ça peut demander d'apporter ces déchets à la décharge et qui, dès le départ, se mettent dans l'illégalité.
C'est une convergence de plusieurs types d'illégalités. Effectivement, l'illégalité d'acteurs criminels connus, comme la Camorra, mais aussi d'entrepreneurs qui, alors certains sont ignorant de ce qui de la prestation qu'ils vont acheter, mais beaucoup sont complices parce que les tarifs qu'on leur propose sont clairement disproportionnés à la baisse par rapport à ce qu'ils devraient être. Et c'est ça une grande partie de la problématique des déchets et qui montre qu'il va y avoir énormément d'acteurs pas que les mafias, mais aussi d'autres opportunistes du trafic des déchets.
Parce qu'il faut expliquer que les producteurs de déchets, les entreprises, sont tenus de qualifier la nature de leurs déchets avant de les apporter à la décharge. Donc, en Europe, il y a un code à 6 chiffres dans le catalogue européen des déchets qui date de 93. Et selon le code retenu, l'entreprise aura à payer de 400 euros la tonne pour les déchets de base à plusieurs milliers d'euros pour les plus toxiques. Mais il y a aussi, Fabrizio Macalia, des intermédiaires. Parfois, les entreprises, comme disait Clotilde Champérage, donnent leur cargaison à des intermédiaires, soit des courtiers, soit directement les entreprises de transport qui vont intervenir et faire, comment dire, sortir ces déchets du circuit légal.
Tout à fait. Non. C'est-à-dire que le trafic tel qu'on a pu le connaître en Campanie avec le pic du milieu des années 2000, c'est un trafic qui s'est constitué de manière extrêmement progressive, de manière extrêmement pragmatique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une cabine de régie campanienne qui, dès le départ, avec un claquement de doigts, a organisé un trafic. C'est un trafic qui s'est mis en place progressivement, vraisemblablement à partir de la seconde moitié des années 80. Il y a peut-être des traces auparavant, mais bon, ce qui est certain, c'est qu'à partir de la seconde moitié des années 80, on voit des transporteurs napolitains, pas immédiatement liés à la mafia locale d'ailleurs, qui vont charger des cargaisons de déchets industriels au nord, dans l'industrie métallurgique, sidérurgique en particulier, et qui ramènent ces cargaisons vers le sud. Et qui les entreposent comme ça dans des cours d'eau, dans des lacs, dans des champs. Et progressivement, le trafic va en quelque sorte s'industrialiser. Va s'industrialiser à partir du moment où ces transporteurs, il y a une famille en particulier qui est connue pour cela, va se lier avec des clans mafieux. Et le trafic va prendre une toute autre dimension à partir de ce moment-là. Et dès lors où le trafic prend une dimension plus importante en termes de volume, de flux, de chargement et également de produits pris en charge, de produits traités, on va dire, eh bien, on voit d'autres intermédiaires, des négociants en déchets intervenir, des agences de certification également qui vont changer la certification des déchets, vont par exemple transformer des liquides industriels ou des bouts de centrales d'unités de retraitement des liquides urbains, par exemple, vont les transformer en bouts agricoles. Et donc,
Ce sera moins cher à transporter,
surtout à traiter, et puis ensuite ces liquides vont être épandus dans des terrains agricoles, puisque les certificats attestent qu'il s'agit de déchets qui peuvent être liquides, qui peuvent être épandus.
On fabrique des faux engrais qu'on vend à des agriculteurs qui ne sont a priori pas au courant de l'arnaque qui leur est ainsi faite. Clotilde Champéra, jusqu'aux sites de stockage et aux entreprises de retraitement, c'est ce que j'ai lu, certains aussi se complaisent dans ce trafic illégal, mais je ne comprends pas comment un site de stockage, par exemple, peut délivrer une attestation de complaisance pour des déchets qui, en fait, n'ont jamais été livrés, comme s'ils se court-circuitaient eux-mêmes.
Alors, il faut voir qu'il y a une chaîne de complicité, d'intervention, et que tout est un peu imbriqué. Et comme disait Fabrice, c'est de la remontée de filière d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au départ, on bricole. La mafia se dit qu'il y a des choses à faire, notamment par rapport au trafic de stupéfiants, parce qu'on a des collaborateurs de justice qui ont parlé, qui ont expliqué que c'était moins risqué. Et en plus, même quand on se faisait prendre, la sanction était moins importante que dans le trafic de stupéfiants. Donc, ils transforment les ordures en or, d'après les termes d'un des collaborateurs de justice.
Qui avait collaboré, témoigné devant le Parlement en 97, c'est lui, Carmine Schiavone.
Oui, ouais. Donc il y a plein de fraudes qui vont se greffer sur ce trafic. Il y a la décharge illégale, alors celle qui est visible, il y a celle qui va être enfouie quand on commence à avoir plus de contrôle. Il y a la fausse documentation, la fausse facturation. Donc ça aussi, ça peut être une façon de se mettre dans la poche des entreprises complices, qui sont des entreprises de la sphère légale. Il y a l'infiltration des marchés publics, il y a la corruption d'analystes chimiques justement pour produire de faux certificats avec des fausses classifications de déchets, des entreprises de transport qui vont être manipulées ou complices actives. Et tout ça, ça fait une nébuleuse de fraude qui est très complexe à analyser et à interrompre.
Donc la Camorra s'est mise dans ce trafic-là à partir des années 70, avec, vous le disiez, un pic dans les années 2000 réellement, une mafia qui y trouvait son compte, puisque trafiquer les déchets leur coûte moins cher quand elles sont prises que le trafic de stupéfiants. Mais néanmoins, de quelles autres opportunités ont-elles bénéficié? Dans quelles failles se sont-elles glissées en compagnie Fabrizio Macalia? Quelles opportunités a-t-elle exploité la mafia dans une filière et un secteur qui n'est pas très bien contrôlé?
Alors, je pense que le trafic de déchets, il faut le réinscrire dans la relation économique de dépendance du Nord et du Sud en Italie. C'est-à-dire que une grande partie des déchets qui vont être convoyés vers la Campanie, mais aussi vers la Calabre, maintenant on commence à documenter des situations parallèles à celles de la Campanie, ce sont des déchets qui proviennent du Nord, qui proviennent des grandes usines établies dans le Nord de la péninsule. Également des bouts de centres d'épuration des villes du Nord. Bon, bref. Et donc, il y a un phénomène de... On va utiliser la Campanie comme une poubelle à ciel ouvert, mais ça s'inscrit dans une logique de la manière dont on se représente ce territoire campanien, de la manière dont on se représente les méridionaux. Voilà. Et donc, ça joue fortement dans le fait de venir déverser en Campanie. Alors, par ailleurs, la Campanie, comme vous le faisiez remarquer, c'est une région avec beaucoup de terrains disponibles parce que c'est une région agricole, donc on trouve le moyen d'évacuer ainsi à l'air libre tous ces déchets. Mais il y a également des déchets locaux, c'est-à-dire que toute l'industrie locale, l'industrie du luxe, l'artisanat, etc., va évacuer ces déchets de cette manière également. Donc aux déchets du Nord vont s'ajouter les déchets produits localement.
Donc des déchets produits localement, des déchets venant du Nord vers le Sud de l'Italie. Clotilde Champéry, est-ce qu'il y a quand même aussi des flux de déchets qui arrivent soit d'autres pays, soit même plus au sud encore de l'Italie?
Oui, alors quand on regarde les flux de trafic de déchets, ça part dans tous les sens. Avec parfois aussi des reroutages en fonction justement des contrôles qui vont être opérés ou pas. Longtemps, on a eu des flux nord-sud, alors que ça soit en Italie ou à l'échelle internationale, avec les pays africains qui recevaient nos ordures.
On en parlait hier, c'était à la fois du commerce, ou avant-hier du commerce international, mais il y a eu beaucoup de commerce illicite.
Oui,
aussi.
Toujours ces fraudes qui se greffent sur le légal. On a eu des flux aussi massifs vers l'Asie. Ce qu'on observe ces derniers temps, alors c'est pas que les mafias, encore une fois, mais c'est aussi des flux nord-nord, parce que la Toscane a été largement touchée aussi, avec justement ces décharges enterrées, donc un phénomène qui est moins visible, mais des déchets enterrés dans des surfaces qui sont ensuite cultivées. Donc la problématique est beaucoup plus large que ça. On a eu des flux aussi qui se sont greffés sur l'ouverture des pays de l'Est, avec là aussi des pays qui sont pas forcément qui ont les mêmes législations, mais qui sont moins regardants dans l'application, pour qui l'environnement n'est pas la priorité. Parce qu'il faut voir aussi qu'on a des forces de l'ordre qui sont débordées par un grand nombre d'illégalités, et l'environnement n'est pas forcément la priorité. Et puis autre chose, ça se greffe aussi sur des lacunes étatiques, c'est-à-dire que il y avait en Italie, mais pas qu'en Italie, la problématique des incinérateurs. On a une capacité à produire des déchets qui excède largement notre capacité à traiter ces déchets. Donc il faut trouver des débouchés, soit de façon légale en exportant, soit en fraudant, en manipulant.
C'est dans cette faille donc que se sont infiltrés d'abord les acteurs criminels. Est-ce qu'en Toscane, par exemple, dont vous venez de parler, le phénomène est plus récent? Et est-ce que des acteurs mafieux sont aussi à l'origine de ce traitement illégal?
Alors ce qu'on sait de la mafia napolitaine, c'est qu'elle est montée au nord. Donc elle est allée chercher des déchets, elle a offert ses prestations. Il y avait véritablement des intermédiaires des déchets qui ont acheminé vers Naples. Après, quand on a commencé à mettre l'accent sur les projecteurs, sur la situation en Campanie, c'est vrai qu'ils se sont dit pourquoi ne pas enterrer directement sur place les déchets. Et c'est une problématique encore d'actualité.
Et même si la prise de conscience remonte déjà il y a un petit moment, puisque dans les années 80, déjà, une cellule spéciale était montée en Italie pour la protection de l'environnement. en 97 se repentit de la Camorra Carmine Schiavone, témoignait devant le Parlement. Les scandales de mozzarella bleue partout, cette bactérie due aux pollutions qui colorait les fromages. Le dernier article sur le sujet dans la presse française date de 2010, en tout cas celui que j'ai trouvé, il y en a peut-être encore de plus récent, mais c'est quand même encore quelque chose de récent. Et en 2007, donc, ce documentaire « Beautiful Country ».
On est venu nous dire que nos moutons étaient contaminés par la dioxine. Ils avaient presque 12 pictogrammes de dioxine dans leur lait. Le troupeau a été mis sous scellé. On en est encore là. Mais ils vont bientôt les abattre. En mars 2003, ils ont prélevé des échantillons, mais les résultats sont arrivés 8 mois après. Pendant ce temps-là, on a mangé nos agneaux, le fromage qu'on a fait. On a vendu notre lait, car on était une entreprise qui vendait du lait. On a mangé cette saleté, mes enfants, les gens et moi.
Fabrizio Macalia, c'est un extrait de nouveau de ce documentaire Beautiful Country avec cette bergère qui a vu d'abord ses animaux tomber malades. Aujourd'hui, ce sont plutôt des enfants dont on parle. Un article dans Mediapart égrenait les avis de décès dans la presse locale qui touchaient et des trentenaires, des adolescents, des enfants aussi touchés par des cancers dans cette région. Est-ce qu'on a une idée de la façon dont les maladies se sont propagées, éventuellement dont elles se sont transmises aussi d'une génération à l'autre ?
Alors, la première étude épidémiologique sur le lien de causalité entre environnement, déchets et santé publique date de 2004. Cette première étude portait sur 3 communes dans laquelle on avait recensé de manière très empirique un nombre élevé de décharges. Et donc cette première étude qu'on peut qualifier de pilote en quelque sorte, démontre dès 2004 donc un lien de causalité avec un risque de surmortalité ou un risque de contracter toute une série de pathologies. Et ce lien a été établi et il va être confirmé par toute une série de travaux dont l'un des derniers date de 2021 par l'Institut supérieur de la santé publique. ISS, dans lequel on a travaillé entre autres de manière longitudinale, on a remonté sur des cohortes, donc des groupes de population dès les années 80, et on confirme ce lien. Et donc aujourd'hui en Campanie, on a 2 territoires qui sont particulièrement touchés, c'est le littoral vésuvien et surtout la région entre Naples et Caserte. Naples et Caserte, c'est environ 400 km². On y a recensé officiellement 3000 sites d'enfouissement illégal de déchets.
Et ça, la cartographie est précise, elle a été établie.
Alors, précise, dans une certaine mesure, oui, 3000 sites recensés, oui. Plus tous ceux qu'on risque de découvrir dans les années à venir. En tout cas, il y a 3000 sites recensés, 3 millions d'habitants, qui sont donc soumis à une exposition extrêmement dangereuse de toute une série de polluants qui provoquent effectivement des leucémies, des malformations urino-génitales. Par exemple, un indicateur, c'est le taux d'hospitalisation pour des crises d'asthme sévères. Il est nettement plus élevé que dans le reste de l'Italie. Bref, voilà. Et la chaîne de transmission, elle se fait à la fois par... surtout par l'alimentation, par les produits alimentaires qui sont cultivés sur place, mais également par le fait de vivre sur place. Le fait de jouer pour les enfants dans des terrains pollués, le fait de consommer des produits alimentaires élaborés sur place, de respirer aussi un air qui est pollué et qui reste pollué.
Donc, en effet, l'alimentation, on ne parle pas que des fromages, de la mozzarella, on parle aussi des céréales contaminées par du plomb, du cadmium et également. Il y a eu une forme de prise de conscience quand même en Italie, et pour le citer, Silvio Berlusconi en avait fait le cœur de sa campagne pour sa 3e candidature comme président du Conseil, c'était déjà en 2008, la lutte contre l'écomafia qui fait également les gros titres. Est-ce que pour autant, Clotilde Champerrache, il y a eu déjà beaucoup d'arrestations et de condamnations? Et est-ce qu'on est en mesure de dire aujourd'hui si la mafia est encore présente dans l'ombre des circuits officiels et des marchés publics?
Alors, la mafia est toujours présente, notamment la mafia calabraise, hein, qui a largement repris les choses en main. Ce qu'il faut voir aussi, c'est la multiplicité des trafics, c'est-à-dire qu'il y a aussi, il y a ces gros trafics de déchets industriels toxiques, mais il y a aussi de la main mise sur la gestion du nettoyage urbain. Et ça, on a plein d'infiltrations qui sont identifiées par les forces de l'ordre et qui mènent à des procès.
Et ça, c'est le début de la chaîne.
Oui, enfin, c'est phagocyté toutes ces activités autour des déchets, parce que il y a plein de criticité dans la chaîne. La chaîne est très longue, donc il y a des possibilités de s'infiltrer. Parce qu'on est aussi sur certains territoires, sur les territoires de mafia, sur de la corruption politique. Donc capter les marchés publics, c'est quelque chose que les mafias savent très bien faire. En Italie, on peut dissoudre les conseils municipaux en cas d'infiltration mafieuse avérée. Et je regardais les chiffres. En 2021, il y a 7 dissolutions de conseils municipaux qui sont liées à des problématiques de gestion de services de nettoyage urbain captés par des individus mafieux. Donc la problématique, elle est loin d'être résolue et on a toujours ça. Et par-dessus se greffent d'autres acteurs qui se disent il y a une opportunité. Donc il y a aussi de l'amateurisme et de l'opportunisme qui se greffent sur des trafics plus structurés.
Cette façon de le voir, Fabrizio Macalia, sous l'angle uniquement de la lutte contre les mafias, est-ce que c'est la bonne façon de le prendre ou est-ce que sont aussi mises en place aujourd'hui en Italie et précisément dans les régions dont on parle depuis tout à l'heure, une véritable politique de ramassage, de tri de déchets, à la fois officielle, efficace?
Alors, c'est une très bonne question parce que à trop vouloir se focaliser sur la dimension criminelle, on en vient à oublier que la Campanie présente un dysfonctionnement structurel dans la gestion des déchets. Un dysfonctionnement structurel qu'elle n'a pas su corriger malgré les milliards d'euros déversés par le gouvernement central pour dans le cadre d'un dispositif dérogatoire d'action publique pour précisément traiter les problématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Campanie dépend pour l'essentiel d'un incinérateur, celui d'Acerra. Et ça veut dire que lorsque on met une ligne en pause pour maintenance ou suite à un dysfonctionnement, eh bien, immédiatement, ça va générer l'impossibilité de traiter une partie des déchets. La Campanie, c'est 12 millions de tonnes de déchets, 9 millions de déchets spéciaux, c'est-à-dire de déchets industriels, déchets artisanaux, BTP, etc. Et 3 millions de déchets domestiques, ce que nous produisons au quotidien. Pour chacune de ces catégories, un tiers est exporté. Donc, on voit bien que la Campanie est dans l'incapacité d'être un territoire autonome ou presque autonome pour traiter ces déchets. Parce qu'il n'y a que cet incinérateur. Cet incinérateur pose problème depuis le départ, d'ailleurs.
Et pourquoi ensuite, il a été créé il y a maintenant 15 ans.
Oui.
Ou 10 ans, en 2015, je crois. Quel problème est-ce qu'il pose?
Alors, les riverains, les associations, les comités qui se mobilisent dénoncent depuis le départ, un problème lié aux filtres utilisés dans cet incinérateur. Et ces filtres ont une capacité insuffisante à retenir un certain nombre de particules qui s'échappent. Et puis, il faut voir également que la Campanie dispose de structures intermédiaires, d'équipements intermédiaires pour traiter les déchets, comme par exemple séparer la fraction humide organique de la fraction sèche, pour ensuite entamer un processus de valorisation. Mais elle dispose de structures en aval insuffisantes pour valoriser précisément ces déchets. Donc, elle se retrouve dans la nécessité de les exporter, de trouver des solutions en dehors donc, de son propre territoire.
Cet incinérateur d'Acerra, inauguré, je crois, en 2010, peut-être pas 2015, mais en tout cas, dans ces eaux-là, ça reste quand même récent. C'était une manière à la fois de dire aux populations locales qu'elles avaient été entendues, sauf que ces populations n'ont pas du tout été consultées et aujourd'hui trouvent que les choses ont été très mal faites. Leur santé des habitants sacrifiée, c'est ce qu'ils disent tout le temps, bien sûr, et ce qui les a également conduit à porter plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. Parmi les plaignants, le prêtre Maurizio Patriciello, ici interrogé par l'agence France Presse.
Nous attendons que justice soit faite pour ces pauvres gens. Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que nous avons dû accompagner au cimetière. J'ai perdu deux frères, ma belle-sœur et mon neveu au fil des années. Et une autre de mes nièces se bat actuellement contre le cancer. Mais nous avons tous été décimés. Nos familles ont été décimées par le cancer. Et ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que nous. Nous avons toujours pensé que notre cri de désespoir, mais aussi d'espoir, cette dénonciation, pourrait profiter à l'humanité tout entière.
Questa denuncia potesse essere a favore di tutta l'umanità.
Et la Cour européenne des droits de l'homme a effectivement condamné l'Italie en janvier pour ne pas avoir protégé les habitants de la Terre des Feux. Clotilde Champerrache, elle a donné 2 ans pour mettre en œuvre une stratégie globale de lutte contre la pollution dans la région, pour instaurer un mécanisme de contrôle indépendant et une plateforme d'information publique. Est-ce qu'à votre connaissance, ça a déjà commencé à faire bouger les choses ?
Bouger les choses, encore une fois, l'Italie est très au fait de ces infiltrations dans les activités aussi légales, notamment dans la chaîne des déchets. Donc tout à l'heure je disais, on peut dissoudre un conseil municipal, on peut aussi exclure, enfin il y a des listes noires d'entreprises qui ne peuvent pas participer à des marchés publics si on pense qu'elles sont infiltrées.
Et, elles peuvent avoir des prête-noms, mais il peut y avoir des indices.
Voilà, il y a des enquêtes qui sont faites et il y a un monitorage spécifique pour tout ce qui est en lien avec cette gestion des déchets. Donc il y a des mécanismes qui sont en place. Ceci étant, encore une fois, la corruption permet de remporter des marchés. Donc on sait qu'il y a des volontés même de s'emparer de ces opérations de restauration environnementale de certains territoires avec, encore une fois, comme pour l'épandage de faux fertilisants, mettre des produits sales dans ces territoires, en fait, à décontaminer.
Fabrizio Macaglia.
Alors, cette décision, je ne sais pas ce qu'elle produira. L'Italie a 2 ans pour élaborer une stratégie nationale pour traiter le problème. Cependant, ce qui est important, ce sont 2 choses à mon sens. La première, c'est la manière dont l'État italien a plaidé devant les juges de la Cour européenne. C'est-à-dire que la stratégie visait à dénier le statut de victime aux requérants, en considérant que la présence d'un certain nombre de composants dans l'environnement ne pouvait pas être reliée aux pathologies que ces requérants avaient développées et avec lesquelles ils souhaitaient donc obtenir réparation.
Parce que c'est toujours très difficile d'établir un lien.
Mais c'est la stratégie de l'État. Et ce déni d'un lien entre santé publique, environnement et déchets, ce discours est tenu depuis le départ en Italie, par les autorités publiques locales, les autorités publiques régionales, les autorités publiques nationales. Et donc, on a retrouvé cette même stratégie sur le plan judiciaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, premièrement. Et deuxièmement, c'est une victoire surtout d'un point de vue symbolique. Parce que avec cette petite victoire, ces requérants, donc ils sont moins d'une cinquantaine, obtiennent la reconnaissance de leur dignité. Parce que, en fin de compte, le fait que l'on dénie qu'on soit une victime, que l'on dénie la possibilité d'être malade parce qu'il y a eu des dysfonctionnements, des défaillances de la part aussi de l'État et des autorités régionales ou locales, ça contribue à se sentir, en fin de compte, minorisé. Et ce qui est intéressant, à mon sens, c'est de voir comment, en fin de compte, les déchets, et dans le cas présent, dans le trafic de déchets, de voir comment les déchets sont vecteurs d'un processus d'altérisation. C'est-à-dire que c'est au travers des déchets qu'on construit l'autre. Et donc, ce processus d'altérisation a conduit à considérer les campagnens comme, en fin de compte, un sous-peuple. Parce que dès les années 2000, on considérait que les pathologies dont on voyait des indicateurs s'affoler, eh bien, on considérait que ces pathologies relevaient de la responsabilité individuelle, de comportement individuel, de comportement alimentaire, la consommation de tabac, la consommation d'alcool ou autre. Et donc, malgré la publication de rapports de santé publique dès 2004, comme je le disais. Et donc, voilà. Et cette victoire judiciaire, elle est, à mon sens, plus importante sur le plan symbolique, en reconnaissant la dignité et en reconnaissant le statut de victime.
On reconnaît leur dignité et leur statut. On essaye aussi de prendre en charge la dépollution. Alors vous disiez, Clotilde Champerrache, qu'il est difficile de savoir aujourd'hui dans quelle mesure les mafias ont infiltré aussi les systèmes ou les entreprises de dépollution. Ce qui est totalement décourageant de se dire que ceux qui ont provoqué aussi ce trafic-là et qui en ont vécu aujourd'hui essayent de contribuer à la solution, mais avec les mêmes méthodes méthodes et voilà. Bon, en tout cas, est-ce que cette dépollution a commencé? D'abord, comment est-ce qu'on dépollue un territoire qui a été contaminé précisément par les métaux lourds que vous avez cités? Est-ce que les habitants peuvent rester chez eux pendant qu'on dépollue, par exemple? Est-ce qu'on dépollue comme on défriche ou comme on terrasse, Fabrizio Macaglia?
Comme je disais, la terre de feu, c'est 400 km², 3 millions d'habitants. Comment fait-on ? Concrètement, comment fait-on ? Il faut indemniser les personnes qui vont perdre leur habitation, leur emploi.
Parce qu'on doit quitter sa maison quand on dépollue. J'essaie de me représenter ce que ça veut dire dépolluer.
Il y a des territoires où les maisons sont installées sur des décharges. Mmh. Parce qu'il y a des projets immobiliers qui se sont développés par la suite, au-dessus de ces terrains, etc. Donc, s'il faut retirer de la terre, s'il faut décontaminer en retirant de la terre, c'est la méthode qui n'est pas forcément efficace par ailleurs. Comment fait-on ? C'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'on est entré dans une impasse et dans un problème extrêmement complexe. Et c'est pour cette raison que les comités des associations locales demandent un droit à l'information, mais un droit à l'information permanent, et d'être impliqués dans les projets de dépollution et dans le monitoring de l'environnement. Ça, c'est une revendication qui est très forte.
Clotilde Champérache.
Oui, d'autant plus que ces déchets ont parfois été utilisés par le BTP lui-même, avec des déchets dedans, coulés dans le béton. Donc, en fait, il y en a partout.
On réutilise.
On a jeté aussi dans la Méditerranée. Donc, toute la zone est contaminée. Tout à l'heure, je parlais du liquide de percolation qui a coulé dans la terre. Sur des décennies, c'est allé extrêmement en profondeur. Donc, nettoyer, ça paraît une opération extrêmement complexe et il est improbable de restituer à ces territoires-là leur propreté originelle.
D'autant qu'on n'a pas éradiqué les mafias et qu'au-delà des mafias, il y a de simples profiteurs de ce système illégal. Le parquet de Naples, aujourd'hui, décrit un phénomène beaucoup plus banal d'entreprises qui désamiantent, par exemple, et qui trouvent que le transport et la mise en décharge de leurs déchets leur coûteront trop cher. C'est le cas aussi en France, et ce sera le sujet de notre focus juste après cette chanteuse italienne très connue en Italie, Giorgia, qui est née à Rome. La chanteuse italienne Giorgia qui chante dans cette chanson « Bienvenue dans cet âge où tout est permis et la terre supplie, pitié à notre regard froid. Je me souviens que la mer était transparente, il ne manquait rien, argent, pouvoir, plastique, bruit. » Regarde comme notre monde est petit, rempli de notre saccage, pendant qu'on consomme tout ce qui a de la valeur. Vous écoutez Culture Monde, le dernier épisode de notre série sur les déchets. Aujourd'hui, le trafic de déchets, qui n'est pas seulement aux mains des mafias italiennes, le trafic de déchets, c'est aujourd'hui l'une des activités criminelles les plus lucratives en Europe, juste après celui de la drogue. En France aussi, associations et forces de l'ordre disent que ça prend une ampleur inquiétante.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Mais ici, on voit que c'est pas très dans les normes, parce que tout est jeté un peu en vrac, un peu de partout. Voilà, du cumulus, beaucoup de bouteilles de gaz. Il y a des produits à base donc de dérivés et de mercure. Donc là, ça n'a pas lieu d'être là.
Jean-Yves Sayag, élu en charge des dépôts sauvages de la métropole ex-Marseille, suivi par une équipe de France 2 chez un ferrailleur à Marseille. Dans le sud de la France, Bouches-du-Rhône, mais surtout Var et Alpes-Maritimes, les décharges sauvages se sont multipliées et des enquêtes sont en cours pour démanteler les réseaux. Bonjour Anne Roch.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes juriste senior en droit de l'environnement au sein de l'ONG France Nature Environnement, FNE, qui s'est constituée partie civile dans plusieurs affaires liées au trafic de déchets. Alors pour évoquer par exemple Anne Roch, celle qui a été jugée en appel le plus récemment, fin avril, par la cour d'appel de Douai, cette affaire de trafic de déchets, non pas dans le sud, mais entre la France et la Belgique. Qu'est-ce qui a mis les enquêteurs sur la piste et qu'est-ce qu'on sait de cette affaire-là ?
Alors en effet, cette affaire-là a été suivie par France Nature Environnement. Il faut savoir que ça a été 5 jours de procès. C'est très très rare en matière d'infraction environnementale qu'il y ait 5 jours de procès. Et il y en a eu 5 parce que tout simplement, c'était un énorme trafic de 10 000 tonnes de déchets entre la Belgique et la France. Ce qui a été révélé dans cette affaire, c'est que ce n'était pas par exemple que les déchets du BTP qui faisaient l'objet de trafic. Là, c'était énormément de déchets ménagers belges. Comme vous l'avez dit au début de production de déchets en Europe, il y en avait trop et ils ont été importés totalement illégalement en France avec des faux papiers par une dizaine de personnes dont certaines étaient parties et faisaient partie de la même famille.
Est-ce que la déchetterie belge qui est à l'origine de tout ça, qui n'arrivait pas à traiter tous ces déchets et qui a cru bon de les faire éliminer en France, est-ce qu'elle a cru en toute bonne foi pouvoir le faire légalement ? À quel niveau de l'affaire s'est situé le trafic et l'illégalité ?
Alors en fait, ce qui est complexe dans un trafic international, c'est que nous, on a jugé la partie française, hein, en tout cas le tribunal judiciaire de Lille et la cour d'appel de Douai, et l'affaire en Belgique est toujours en cours. Et donc cette affaire doit éclairer et doit nous dire si ces sites de stockage belges étaient au courant ou si eux-mêmes se sont fait duper par les faux papiers qui avaient été faits par les enquêteurs.
C'est vrai que d'abord, les déchets ont été convoyés vers des centres de retraitement en falsifiant leur provenance belge, leur quantité et leur nature. Et c'est quand les centres de retraitement type Suez ont compris l'escroquerie que ces intermédiaires ont basculé vers le dépôt sauvage dans le Grand Est et les Hauts-de-France notamment. Alors, plusieurs affaires existent entre la France et l'Espagne aussi. Vous avez assisté, Anne Roch, à un procès en février où comparaissaient 6 entrepreneurs et 3 sociétés de traitement de déchets de la région bordelaise. Je crois que le jugement n'a pas été rendu. Alors, de quoi sont soupçonnés ces personnes et ces entreprises ?
Alors oui, ça c'est très intéressant. Donc en fait, l'affaire a été reportée, hein, l'audience aura lieu en février, mais il s'agit bien de 6 personnes et plusieurs sociétés. Là, ce sont des sociétés qui avaient pignon sur rue dans la région bordelaise, qui accueillaient des déchets et qui devaient les trier et permettre un traitement adéquat. Et l'appât du gain a fait que ces sociétés ont voulu accueillir toujours plus de déchets. Et quand elles débordaient, entre guillemets, de déchets, elles se sont dit, on va les faire exporter en Espagne. On va faire croire que ce sont des déchets recyclables, valorisables. Et une fois qu'ils arrivent en Espagne, on dit que finalement, ils sont espagnols, c'est du plastique et c'est enfoui. Là aussi, on parle de 10 000 tonnes de déchets. Donc, les risques de pollution des sols et des eaux en Espagne sont édifiants. Et donc, on attend ce procès avec impatience. Et aussi, il y a une affaire parallèle en Espagne qui n'a pas encore été jugée.
Oui, à ce sujet, vous parlez, ou FNE parle davantage de délinquance en col blanc. Pourquoi ?
Ben oui, tout à fait, parce que quand vous nous parliez au début, quand on parlait de l'affaire belge, alors c'était pas une délinquance en col blanc, hein, c'était des personnes d'une même famille et autres qui ont créé ce vaste trafic avec des faux papiers. Mais là, dans l'affaire de Bordeaux, ce sont des personnes qui exploitent des sociétés de gestion de déchets, qui se font énormément d'argent, qui communiquent en disant que leurs sociétés sont là pour permettre la réduction des déchets à terme et contribuer à la protection de l'environnement, alors qu'au final, ils ont fait des faux papiers et ils ont balancé tout ce qu'ils ne souhaitaient pas trier en Espagne avec les risques de pollution qu'on connaît. Donc là, c'est vraiment une délinquance en col blanc de chefs d'entreprise qui ont décidé de participer à ce trafic et d'exporter toujours plus illégalement en Espagne.
Une dernière affaire, Anne Roch, qui donne quand même une idée de l'ampleur de ces trafics en France et en Europe. Vous représenterez FNE dans un prochain procès à Draguignan en janvier, oui, après le signalement effectué par la Direction régionale de l'environnement qui met en cause une entreprise du Var, laquelle aurait elle aussi fait enfouir des déchets principalement issus du BTP, mais pas seulement en Espagne. En quelques mots, comment le dirigeant de cette société a-t-il engagé une spirale devenue infernale, sursaturation de ces sites de déchets, enfouissement illégal dans une carrière d'abord locale à Flassan-sur-Issole et en Espagne ensuite ?
Oui, alors le fonctionnement, ça ressemble aussi à l'affaire de la mafia dite des déchets jugée en PACA en 2021. C'est qu'en fait, ce sont des sociétés de traitement et de valorisation de déchets, de provenance du BTP qui candidatent à des marchés publics avec des prix anormalement bas. Donc c'est vrai qu'il faut creuser, est-ce que les personnes qui accordent les marchés se rendent compte que ça cause ce risque, ce type de risque, environ 20% en dessous du marché. Ils obtiennent les marchés et au lieu d'éliminer les déchets du BTP dans des filières légales, soit ils les ont renvoyés en Espagne, soit ils les stockaient aussi dans des carrières. Il y a vraiment 23 mètres de profondeur dans une carrière avec de stockage de déchets. Donc c'est vraiment très dangereux, comme vous l'aviez dit dans l'affaire en Italie. Il y a des gaz qui s'en échappent, ça peut occasionner vraiment des risques pour la santé et pour l'environnement. Et donc, quand il y en avait trop, on utilise cette filière espagnole. Donc, l'Espagne devient un petit peu aussi la poubelle de certains déchets français.
Vous avez dit, il faut creuser. Anne Rock, vous parliez de ces appels d'offres auxquels répondent des entreprises qui cassent les prix et, vous demandant dans quelle mesure on peut laisser passer ces prix très bas sans se demander ce qu'il y a derrière. Il faut creuser aussi au sens propre, puisque dans cette affaire, des déchets avaient été enfouis jusqu'à 23 mètres de profondeur. Est-ce qu'il y a déjà des conséquences environnementales en France que l'on touche du doigt, quoi, qu'on peut vraiment documenter?
Oui, tout à fait. Je pense que ce qui peut-être va parler aux gens, c'est toujours dans les Bouches-du-Rhône, il y a eu un incident, un énorme incendie à Saint-Chamas il y a 3 ans. Tout ça parce qu'une personne stockait tellement de déchets, beaucoup plus que ce qu'elle était autorisée à faire. Un feu s'est déclaré. Il a fallu 6 semaines aux pompiers pour éteindre ce feu. Donc les conséquences sanitaires, les enfants ne pouvaient plus à proximité sortir dans les cours de récréation, une pollution aux particules fines. Donc on touche clairement du doigt aussi ces risques de pollution très concrets en France. Et nous, lors des procès FNE, ce qu'on essaie de porter, c'est d'exiger la remise en état des sites. Mais malheureusement, quand on a 20 000 mètres carrés de déchets, ça peut coûter jusqu'à 800 000 euros la remise en état. Et donc c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui les personnes sont poursuivies, mais les sites ne sont pas remis en état.
Et pourquoi? C'est-à-dire que ces personnes, quand elles sont condamnées, quand on estime par exemple que dans l'affaire France-Belgique, le coût de dépollution s'établit à 90 000 euros à peu près, les personnes qui ont été condamnées, elles sont bien censées verser de l'argent pour que cette dépollution soit faite?
Exactement, mais nous on voit dans l'enquête, il y a des écoutes téléphoniques, etc. On voit que quand les personnes se font attraper, elles essaient d'organiser leur insolvabilité. À la fin, 3 ans plus tard, quand les procès sont là, les personnes ne sont plus solvables. Et donc, organiser la remise en état à leurs frais, c'est quand même une complexité pour le monde judiciaire. Et donc, ça pose vraiment de questions de qui est compétent pour le faire et avec quels moyens financiers.
FNE coordonne la plateforme Sentinelle de la Nature en lien avec d'autres associations fédérées. Il s'agit d'appeler tous ceux qui peuvent avoir l'indice, quel qu'il soit, qu'une décharge sauvage a été installée, j'allais dire, mais créée pas très loin de chez lui ou de chez elle, ou parfois en pleine forêt, d'appeler, de faire une déclaration, de témoigner de ce qui est en train de se passer près de chez eux ou près de chez elles. Tout à l'heure, Fabrizio Macaglia parlait aussi de ces déchets toxiques qu'on remélange à mille choses, des matériaux du BTP, etc., pour en refaire donc d'autres matériaux du BTP, parfois pour en faire des engrais qu'on vend comme engrais à des agriculteurs. Est-ce qu'on voit aussi en France des particuliers à qui des entreprises livrent de la terre pour chez eux et en fait, quand on analyse cette terre, ce sont bien des résidus de ces déchetteries illégales?
Oui, tout à fait. L'affaire de la mafia des déchets qui a été jugée en premier il y a 3 ans, c'était aussi un procès de 5 jours. Il y a des pauvres individus très innocents qui ont répondu à des annonces sur le Bon Coin. Ils pensaient accueillir des terres saines et au final, ça a été des camions qui sont arrivés chez eux pendant plusieurs jours. On les menaçait de mort et je crois que ces personnes, aujourd'hui, 2025, ont toujours ces problèmes-là. Donc, c'est vrai que notre application Sentinelle de la Nature, ça permet aux gens de signaler ces problèmes avant qu'ils ne deviennent trop graves et trop importants.
Merci beaucoup, Anne Rock, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes juriste en droit de l'environnement au sein de l'ONG France Nature Environnement, FNE. Clotilde Champérage, Fabrizio Macaglia, vous avez écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui a été dit pendant ce focus par Anne Rock. À qui profite ce trafic? Pourquoi est-il aussi rentable? On estime aujourd'hui, Clotilde Champérage, que 30% des transferts de déchets en Europe seraient illicites.
Ben ça profite à tout le monde et c'est ça une des problématiques, c'est que vous avez aussi bien les criminels qui sont intéressés à faire ces choses-là et les entrepreneurs ou les producteurs de déchets. C'est-à-dire que le producteur de déchets, quand le prix est véritablement bas, alors il est pas dupe normalement, il se renseigne, il va faire un gain qui parfois est justifié. Quand certains sont mis en accusation, ils vont vous dire c'est une question de compétitivité, donc je réduis les gains. Ça peut être aussi une forme d'évasion fiscale, parce que l'écotaxe qui est payée va être moindre si les déchets sont déclassifiés. Et puis, évidemment, vous avez la possibilité de réaliser des gains en facturant des services qui ne sont pas rendus, en revendant ces déchets pour des fertilisants, de la construction dans le BTP. Donc il y a plein de façons de se faire de l'argent sur ces déchets qui rend les choses possibles et qui, encore une fois, va impliquer un nombre très varié d'acteurs qui sont tous intéressés. Donc il y a les mafias qui posent un vrai problème, mais il y a toute une diffusion de cette illégalité autour des déchets qui se fait et qui va impliquer aussi des petites personnes qui profitent d'une occasion pour faire de l'argent sur ces déchets.
Quand les intérêts des entreprises et ceux de la criminalité organisée convergent, même quand les entreprises peuvent, ça peut arriver, ne pas être conscientes de la fraude, Fabrizio Macalia.
Oui, non, ces trafics existent également parce que les risques judiciaires sont relativement faibles, en fin de compte. Déjà, les enquêtes sont longues et complexes à mener. Les parquets ne sont pas toujours très intéressés par les questions environnementales. Les magistrats ne font pas carrière sur les questions environnementales. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Ce n'est pas un vecteur de carrière. Donc il y a une convergence dans le fonctionnement, on va dire, pas du système judiciaire, mais de la prise en charge judiciaire qui fait que effectivement, ce sont des trafics qui peuvent perdurer parfois, sauf quand des magistrats sont investis sur ces questions-là.
Clotilde Champérache.
Avant même les magistrats, les enquêteurs des forces de l'ordre, police, gendarmerie, ils essaient de faire le travail. Il y a l'OCLAESP notamment qui est spécialisé sur ces problématiques environnementales. Mais, comme je le disais, il y a plein de trafics, il y a plein d'illégalités avec une police judiciaire qui est un peu en déshérence, enfin en tout cas un manque d'enquêteurs
d'effectifs.
Et de possibilités d'enquêter sur le long terme. C'est quand même complexe aussi de remonter ces filières, d'identifier les acteurs. Et la priorité, encore une fois, en termes de carrière, d'avancement, c'est plus les affaires de stupéfiants qui vont être mises en avant.
D'où l'idée de certains pays, comme les Pays-Bas par exemple, oui, de mélanger la lutte contre ce trafic de déchets et celle de la lutte contre les drogues.
Oui, alors l'idée c'est de sortir des silos, de dire il y a le marché des stupéfiants, il y a le marché des déchets, etc. En fait, les illégalités sont largement connectées et aux Pays-Bas, il y a une problématique émergente au niveau des drogues de synthèse qui utilisent des précurseurs chimiques. Et évidemment, les trafiquants qui vont créer ces drogues de synthèse, après, les déchets chimiques, ils les jettent dans la nature. Et aux Pays-Bas, ils ont mis en place une sensibilisation de la population, parce que c'est souvent dans les campagnes aussi qu'on va jeter ces déchets, sensibilisation aux odeurs que produisent ces précurseurs chimiques et à la dégradation des terres. Quand on a des terrains où la végétation est brûlée, ça doit être perçu comme des indices et on amène la population à dénoncer ces endroits-là pour qu'il y ait enquête et qu'on sache si effectivement c'est une décharge illégale de produits chimiques.
Donc on s'attaque aux décharges sauvages et au trafic de drogue en même temps. Une dernière question très rapide. On parlait avant-hier dans notre émission sur le commerce international des déchets, de la quasi-fermeture de la Chine et à sa suite de la Thaïlande, de la Malaisie, de l'Inde qui ont interdit l'importation de certains types de déchets. Est-ce que ça fait augmenter les prix de traitement légal à l'échelle mondiale? Et donc, in fine, peut-être encourage encore ces trafics.
Oui, puis ça crée un engorgement parce que, encore une fois, nous n'avons pas les capacités nécessaires pour traiter nos déchets.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Clotilde Champérache, je rappelle le titre de votre livre, Géopolitique des mafias entre expansion économique et conquête territoriale, est disponible en livre de poche. Et Fabrizio Macalia, merci également d'avoir été avec nous, membre du LADIS, Laboratoire Dynamique Sociale et Recomposition des Espaces. Merci beaucoup, c'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Il n'y a pas que la France, Catherine, qui est sous pression budgétaire au risque d'une crise politique. Le Royaume-Uni pourrait lui aussi serrer encore la vis.
À l'occasion d'un budget très tendu présenté le 26 novembre prochain. La date a été révélée hier, annonce le Guardian, Politico et le HuffPost UK. Commence donc un marathon de 2 mois, un jeu d'équilibriste pour la ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, qui doit financer les hôpitaux, les écoles, l'armée, la police, énumère la BBC, tout en assainissant les finances publiques pour relancer la croissance économique bien terne à Londres et maintenir la confiance des investisseurs sur les marchés financiers. Le 26 novembre et un budget digne d'Halloween qui peut faire peur, ajoute Sky News, car le gouvernement travailliste doit retrouver aussi la confiance de ses troupes au Parlement, ébranlée par une fronde à sa gauche avant l'été, rappelle le Financial Times, en raison de coupes dans les aides sociales. La ministre des Finances aurait étudié plusieurs mesures pour augmenter les impôts, indique le Guardian, alors que c'était exclu du programme travailliste avant son arrivée au pouvoir il y a un peu plus d'un an. Le Labour craint désormais un déficit budgétaire pouvant atteindre 40 milliards de livres sterling. Bref, l'automne s'annonce aussi socialement tendu au Royaume-Uni.
Et le gouvernement travailliste est par ailleurs toujours confronté à un vent anti-immigration.
Les drapeaux anglais et britanniques qui flottent d'habitude lors d'événements sportifs ou pour un événement royal se déploient désormais le long des routes, des ronds-points, des villes, des villages, aux lampadaires aussi, comme à Worcester dans l'ouest de l'Angleterre, à l'initiative du groupe Worcester Patriots qui se défend d'être raciste. Mais une pétition a été lancée, rapporte le journal local The Worcester News, pour faire enlever les drapeaux anglais rouges et blancs aux couleurs de la croix de Saint-Georges et pour en finir avec la propagation de messages de haine et d'exclusion. Comme le dénonce une habitante de Worcester qui préfère garder l'anonymat par crainte de représailles, indique encore The Worcester News. Un climat explosif. Face aux Britanniques enveloppés dans le drapeau de l'Union Jack qui scande « Send them back, renvoyez-les », on trouve des militants antifa, des soignants qui rappellent que le NHS, le système de santé britannique, repose aussi sur les immigrés, moins bien payés d'ailleurs que les autres personnels, ou encore des femmes à la retraite qui se proclament « Nans against Nazis »,« Grand-mère contre les nazis », des manifestations anti- ou pro-immigration qui ont été qualifiées de violentes, d'horribles même, par The Mirror et Forbes, alors que des heurts ont éclaté encore ce week-end avec la police. C'était devant un hôtel qui accueille des demandeurs d'asile à Epping, au nord de Londres. Le Royaume-Uni a annoncé cette semaine suspendre temporairement les nouvelles demandes de regroupement familial pour les réfugiés déjà présents sur son territoire, confrontés à des chiffres records d'arrivées d'exilés par petits bateaux au péril de leur vie, note Sky News. Le gouvernement travailliste a prévu de renvoyer en France, dans le courant de ce mois de septembre, de premiers immigrés clandestins, conformément au traité conclu cet été avec Paris. Tour de vis migratoire face à la pression d'une partie de la rue, on l'a entendu, face aussi au sondage qui place le parti anti-immigration Reform UK, dirigé par l'ancien partisan du Brexit Nigel Farage, en tête donc des sondages d'opinion, souligne le Wall Street Journal. Après l'Italie, la Finlande et les Pays-Bas qui ont vu des partis d'extrême droite et anti-immigration arriver au pouvoir pour la première fois cette année, s'inquiète le Wall Street Journal. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, les plus grandes économies européennes, voient simultanément l'extrême droite aux portes du pouvoir. Ce qui pourrait, toujours selon le Wall Street Journal, provoquer une période de turbulence politique dans ces trois pays confrontés à une crise du pouvoir d'achat, à l'image de ce que l'on a pu voir aux États-Unis avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Enfin, Catherine, l'épilogue pour un tableau volé par les nazis qui avait été repéré dans une annonce immobilière en Argentine.
Avant de disparaître de nouveau lors d'une perquisition de police menée la semaine dernière dans une station balnéaire en Argentine, à Mar del Plata, à 400 km au sud de Buenos Aires. C'est le journal néerlandais Algemeen Dagblad qui avait repéré donc ce tableau du XVIIIe siècle, le portrait d'une dame de l'italien Giuseppe Ghislandi. Sur une photo parue dans une petite annonce immobilière, cette toile se trouvait au-dessus d'un canapé vert dans la maison de la fille d'un ancien officier SS, Friedrich Catherine, conseiller financier de Göring. Il a spolié de ses biens le collectionneur juif néerlandais Jacques Goudsticker pendant la Seconde Guerre mondiale, comme le rappelle le quotidien argentin Clarín. La nouvelle s'était répandue dans la presse internationale et quand la police est arrivée dans la maison de l'héritière de cet ancien nazi, le tableau s'était comme évaporé, note Clarín et le quotidien argentin La Nación. Les propriétaires de la maison ont alors été assignés à résidence, accusés d'entrave à la justice. Ils ont finalement admis hier être en possession de l'œuvre d'art, mais ils estiment qu'elle fait partie de leur patrimoine. Vu le temps passé avec ce portrait d'une dame, indique La Nación. La fille de l'ancien SS et son mari doivent comparaître ce matin à la Cour fédérale, annonce Clarín, pour connaître les chefs d'accusation retenus contre eux. Quant aux héritiers du collectionneur néerlandais Jacques Goudsticker, spolié de ses biens par les nazis, ils n'attendent qu'une chose, la restitution de ses œuvres et d'une partie de mémoire.
Merci beaucoup Catherine Dutu. Demain dans Culture Monde, comme chaque vendredi, vous retrouverez Mélanie Chalandon et ses invités avec une table ronde nous consacrer à la Chine, la montée en puissance militaire chinoise avec ses invités François Bougon et Juliette Genvaz. Table ronde précédée d'un retour de Syrie avec la journaliste Manon Chaplin qui pour RFI parlera des violences intercommunautaires en Syrie.